Alors, je donne avec reconnaissance la parole à Philippe Gaudin et je serai un peu terroriste parce que j'interromprai les personnes à la fin du temps qui leur est imparti. En principe, pour lui, comme il introduit un quart d'heure, et pour les autres, 10 minutes. Compte tenu de mes origines suisses, vous savez bien que j'ai avalé un coucou et que les heures sont les heures. Cher Philippe, nous t'écoutons et je te passe
ce micro. Ben donc, bienvenue à tous dans ce temple de l'oratoire et sous les auspices, non pas de l'être suprême, mais d'évangile et liberté. Et je serais tenté de dire évangile et donc liberté. Voilà. Alors j'ai effectivement un privilège absolument exorbitant sur mes camarades de jeu, c'est que je vais vous présenter la vie éternelle en 15 minutes, tandis qu'eux n'auront que 10 minutes. Voilà. Blague à part, tout le monde sent bien, tout le monde comprend bien qu'il y a une difficulté, non seulement évidemment dans la question « comment y croire » et dans les deux sens que Laurent vient d'indiquer, mais il y a une difficulté dans les termes mêmes. La vie éternelle. Je crois qu'il est très difficile de dire ce qu'est la vie. Si vous demandez à un biologiste ce qu'est la vie, il va partir dans des considérations très longues et très compliquées. Ça n'est pas du tout simple de dire ce qu'est la vie. Quant à l'éternité, je crois qu'on connaît un embarras d'une nature différente, mais un grand embarras aussi. On dit que Platon définissait le temps comme l'image mobile de l'éternité. Alors si l'on dit que effectivement l'éternité est l'image fixe du temps, je ne sais pas si on est beaucoup avancé. Difficulté à définir les simples termes, vie et éternité. Difficulté plus encore à définir l'expression « vie éternelle » qui semble, de premier abord, tout à fait contradictoire. Donc ce que je vais essayer de faire, effectivement, je vais céder à la tentation quand même d'essayer de dire quelque chose conceptuellement, même si je ne suis pas tout à fait sûr de tenir le temps. Je vais donc essayer de faire un travail de définition pour essayer de préparer un petit peu la question. Je n'entrerai pas à proprement parler dans la réponse, en tous les cas pas d'un point de vue théologique. J'aborde la question philosophiquement par, je dirais simplement, ce travail de définition des termes. J'aurais presque envie de dire que l'approche philosophique, quand on pose la question par exemple « est-ce que Dieu existe ?», ben, l'approche philosophique, plutôt que de se jeter sur la question de savoir qui est Dieu ou ce qu'est Dieu, le philosophe spontanément cherche à méditer sur la signification du verbe « exister ». Alors, pourquoi est-ce que l'expression même « vie éternelle » semble contradictoire ? Eh bien, tout simplement parce que ce qui est vivant finit toujours par mourir. Certitude empirique, certes, mais certitude quand même. Donc, première vérité. Deuxième vérité. Seul ce qui est vivant peut mourir. Donc par ce premier travail, on trouve deux sens en quelque sorte. Et pour définir la vie, il est parfois plus commode de méditer sur la question de la mort. Premier sens pour la mort, c'est ce qui vient à la fin de la vie. Dans le jargon des philosophes, c'est la mort au sens ontique. Et deuxième définition, la mort, c'est le fait de pouvoir mourir et de pouvoir mourir à chaque instant et à tout âge. C'est ce qu'on appelle la mortalité de l'homme. C'est la mort au sens ontologique, en tant qu'elle fait à proprement parler de la condition humaine, mais aussi de la condition peut-être de tout vivant. Le vivant est précaire par nature et quel que soit son âge. Il y a une double présence de la mort au sein même de la vie, soit à sa fin et à son terme, soit à tout moment, à tout instant. Mais si donc la mort est présente au sein même et au cœur de la vie, il me semble qu'il y a aussi la présence d'un désir, d'un dur désir de vie éternelle, mais qui doit être interprété et qui peut lui aussi prendre plusieurs sens.
Vous entendez ?
Vous n'entendez pas bien ? Si on se souvient de la première définition, le désir de vie éternelle, ça signifie tout simplement le désir de continuer à toujours vivre. Mais vous rappelez cette histoire que racontait Swift de ceux qui avaient demandé l'immortalité, mais qui avaient oublié de demander l'éternelle jeunesse. Ils ont été condamnés au pire des supplices de ne pas pouvoir mourir et d'être dans une décrépitude de plus en plus grave. Autrement dit, le désir de vie éternelle, dans son premier sens, c'est tout simplement, en fait, non pas tellement le désir d'immortalité, mais c'est le désir tout simplement d'être heureux, de pouvoir continuer à être toujours heureux, c'est-à-dire de jouir de tous les biens de cette vie. Autrement dit, ce désir en ce premier sens renvoie tout simplement au désir d'éloigner la déchéance de la maladie et de la mort. Mais le désir de vie éternelle peut avoir un sens plus profond encore, si on se rappelle de la deuxième définition que nous avons donnée de la mort, c'est le désir de dépasser notre condition mortelle. Le fait de pouvoir mourir à chaque instant. Et ce désir de dépasser notre condition mortelle n'est certainement pas sans rapport avec notre condition temporelle. Car si le présent est précisément ce qui meurt à chaque instant, c'est peut-être parce que nous sommes mortels que nous sentons le temps passer, c'est-à-dire le présent mourir à chaque instant en nous. Autrement dit, et là malheureusement je ne peux pas développer, mais c'est à mon avis la veine philosophique la plus intéressante, il faut penser le temps à partir de la mort et non pas la mort à partir du temps. En ce sens-là, la mort n'est pas une conséquence des effets et des ravages du temps, mais c'est le temps qui est une conséquence de notre être mortel. C'est parce que nous sommes mortels que pour nous, il y a cette expérience si particulière qui est celle du temps et du temps que nous sentons passer. Ce qui m'amène à donner trois définitions du temps. Première définition du temps, je regarde ma montre et en ce sens-là, le temps est défini comme la mesure conventionnelle d'un mouvement. Le mouvement de cette petite machine qui s'appelle la montre. Je regarde le bracelet de ma montre et je constate qu'il est usé. C'est une deuxième définition du temps, définie cette fois-ci comme la durée dans laquelle toutes les choses sont plongées et qui les soumettent toutes à l'usure. Mais il y a une troisième définition du temps, c'est l'angoisse que j'éprouve, et tout à fait actuellement d'ailleurs, à l'idée que je n'ai plus assez de temps, que le temps m'est compté. Alors ce n'est pas simplement pour faire telle ou telle petite action. Ce sentiment que le temps m'est compté, c'est la condition même de l'homme. C'est l'angoisse, et ce n'est pas une angoisse, si vous voulez, qui me saisit particulièrement à un moment plutôt qu'à un autre. C'est une angoisse liée à l'existence même de l'homme, et qui fait que nous ne pouvons pas vivre sans cesse faire des projets. Qui n'a un jour quitté sa maison pour aller au travail et regarder avec envie son chat en train de dormir sur son coussin ? Les animaux sont, et ça leur suffit bien, nous avons toujours le projet d'exister, ce qui est particulièrement excitant et particulièrement angoissant et pénible. Et c'est la raison pour laquelle, sans doute, il y a au cœur de la vie le désir d'en finir avec la condition humaine qui est liée à une forme d'angoisse métaphysique et qui est liée à l'existence même de l'homme comme être temporel. Les animaux sont dans la durée, les hommes sont dans le temps. Autrement dit, nous avons vu les deux formes que peuvent prendre le désir de vie éternelle. Nous avons vu deux définitions, en quelque sorte, de la mort et trois définitions du temps. Et cela fait voir ou fait comprendre qu'au cœur de la vie, il y a quelque chose d'autre que le simple désir de vivre. Hein ? La vie n'est pas en elle-même une raison de vivre. Ce que nous voulons, c'est vivre heureux et non pas vivre pour vivre. Et c'est vrai que le désir de mourir par fatigue ou lassitude, ce que les psychanalystes appellent la pulsion de mort, qu'on confond avec l'agressivité, qui est au contraire la pulsion de vie, la pulsion de mort fait partie de la vie, mais aussi, si l'on veut vivre pour le bonheur, on veut vivre pour l'honneur. Plutôt mourir que, c'est sans doute le propre aussi de la vie humaine dans certaines circonstances. Et au-delà de ces deux manières de dépasser la vie comme donnée biologique, il y a aussi ce désir de dépasser l'angoisse existentielle à l'égard du temps. Ce qui fait surgir, in fine, une troisième définition de la mort. Nous en avions vu deux, ce qui arrive à la fin de la vie, ce qui peut arriver à chaque instant. Et la troisième définition de la mort, c'est non plus le passage, mais ce qui serait après ou au-delà. Et là, nous nous rapprochons un petit peu de notre sujet, à savoir la vie éternelle. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a, j'espère l'avoir un petit peu thématisé, un désir de vie éternelle. Vous vous souvenez de ce slogan de 68, sans doute le plus beau, « Prenez vos désirs pour des réalités ». Et vous savez qu'à partir de là, il y a deux grandes options philosophiques. Il y a ceux qui disent « Quelle erreur que de croire ». Que de la réalité du désir, on peut conclure à la réalité de son objet, qu'il y ait un désir de Dieu ne prouve pas l'existence de Dieu, qu'il y ait un désir de vie éternelle ne prouve pas que cette vie éternelle soit possible, ou au contraire, ceux qui, à partir de la réalité du désir, justement, construisent toute une attitude philosophique ou théologique. Il y a deux grandes familles, me semble-t-il. La première consiste à dire, au fond, les contradictions, les tensions que nous subissons pendant notre vie vont se résorber. Pour dire les choses d'une manière un peu brutale et vulgaire, calmez-vous, car de toute manière, un jour, vous serez définitivement calmés. C'est la veine de toutes les sagesses et de toutes les religions du monde. Acceptez la mort, car elle est naturelle à l'homme. Et donc, il y a une éternité de la mort, plutôt qu'une éternité de la vie. La mort est antisomatique et antipsychique, parce que la mort divise le corps ou l'individu, qui étymologiquement veut dire ce qui est indivisible, et la mort fait disparaître la réalité substantielle du psychisme ou de l'âme. Donc, que l'on soit spiritualiste ou matérialiste, c'est une métaphysique de la dissolution et de la sérénité. Et l'autre grande attitude, très différente, consiste à dire que précisément la résorption de nos contradictions et de nos conflits viendra de la victoire du désir et non pas de son extinction. Et alors à ce moment-là, les choses sont très différentes et vivre ne consiste pas à accepter de mourir, mais vivre consiste à certes en comprendre la réalité en quelque sorte, mais vivre consiste à se battre en quelque sorte contre la mort et à espérer au-delà de la mort. Ce qui peut signifier aussi le fait de croire à l'indivisibilité de l'individu dans sa dimension corporelle et dans sa dimension spirituelle. Je rajoute quand même une phrase de conclusion. Ces deux attitudes sont présentes dans la Bible elle-même, même s'il me semble que l'originalité de la Bible et du Dieu biblique est quand même de faire le choix de la seconde attitude métaphysique, et plus encore avec l'Évangile. Voilà.
Vous voyez qu'il est possible, contrairement à ce que l'on pense parfois, de comprendre très bien un philosophe. Je précise que Philippe Godin vient de publier un livre, lui aussi très compréhensible, sur la religion et Nietzsche. Nietzsche et la religion. Je crois qu'il est au comptoir de librairie, cet ouvrage. J'espère.